Les premiers mots de la paracha Tazria, l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, en disant, quand une femme conçoit et donne naissance à un garçon. Donc le sujet de cette paracha, qui est traité par le rabbi dans le Dvar Malchut, c'est le sujet de la conception d'un enfant, du fils. La conception d'un enfant, c'est un sujet qui revient dans la Torah, et qui est très profond, puisque déjà, avec le Harizal, il y a une page de Gemara dans le traité Nida qui parle de la conception de l'enfant, de toute sa gestation dans le ventre de sa mère. Et le Harizal explique que, de manière comme ça superficielle, on peut voir à travers les paroles de la Gemara, vraiment le sujet de la création de l'enfant, de sa conception, quand il se trouve dans le ventre de sa mère. Mais de manière profonde, le Harizal explique que la conception de cet enfant, en fait, ça correspond à la formation de l'âme divine. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport qui existe entre la naissance de l'enfant et la naissance de l'âme divine. Et ce sujet-là, c'est le sujet vraiment de notre paracha Tazria. Et le rabbi, il explique que, justement, la création de l'enfant, la naissance, ça fait référence à la vie, à la naissance, à l'existence, au départ de l'existence, et de manière directe à la Géoula, puisque la Géoula elle-même, c'est une naissance, c'est une nouvelle vie, une nouvelle perception de ce monde, une nouvelle perception de la Torah, la révélation, le dévoilement du Mashiach, c'est le dévoilement, la naissance, si on peut dire même la renaissance du monde, quand le monde il va trouver vraiment, ça, il va atteindre la perfection. L'Admor HaZaken, il écrit dans le deuxième chapitre du Tanya que les âmes des Juifs ont été conçues dans la pensée de Dieu. Ainsi qu'il est écrit, Israël est mon premier-né, et vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Admor HaZaken souligne que, de même qu'un enfant est le produit du cerveau de son père, ainsi l'âme de chaque Juif est le produit de la pensée et de la sagesse de Dieu. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que un fils est le produit de la goutte séminale qui provient du cerveau de son père. Après que cette goutte s'est transformée pendant tous les mois de gestation dans le ventre de sa mère. Donc on voit que le fils il provient de la goutte qui elle-même provient du cerveau du père. Et ensuite cette goutte-là elle va se transformer et tous les membres du corps de l'enfant vont se former pendant toute cette période, à partir de cette goutte, jusqu'à ce que même les ongles des pieds se trouvent formés par cette semence. Ça, c'est l'enseignement du Tanya. Donc, l'Admor HaZaken, il écrit que tous les membres du corps de l'enfant demeurent liés, et c'est ça l'expression qui nous intéresse ici, il écrit « d'une unité merveilleuse à l'essence de la goutte du Père ». C'est-à-dire que l'enfant, il est lié à l'essence de son père. L'essence du père, elle se prolonge, elle est recréée dans l'enfant lui-même. C'est-à-dire que l'enfant, le fils, il est le prolongement de son père. Donc on voit que toute cette unité, vraiment, que le rabbi définit comme étant merveilleuse, ça fait référence au fait qu'un enfant, il demeure toujours lié à son père. Et pourquoi? Parce que même après que tous les membres du corps de l'enfant se sont formés, même après cela, ces membres du corps, ils vont recevoir leur vitalité du cerveau de l'enfant, mais, et c'est ça le point qui est essentiel, c'est comme s'ils la recevaient du cerveau du père. Pourquoi? Parce que le cerveau du fils est de la même essence que le cerveau de son père. Donc, on voit ici l'enseignement de l'Admor HaZaken, il nous amène à comprendre et à réaliser qu'il en est de même pour l'âme juive. Que l'Admor HaZaken, il va démontrer dans le livre du Tanya que la relation qui existe entre le Père et le Fils est la même que celle qui existe entre l'essence divine et l'essence de l'âme d'Israël. Et si on analyse cette déclaration de manière profonde, on voit que même le Chassid lui-même, tous les enfants d'Israël, ils sont liés au cerveau de leur Père, qui correspond au Moshe de la génération, c'est-à-dire au Rabbi. C'est-à-dire que même après que le fils il a une existence qui est indépendante, on voit qu'il demeure attaché à l'essence de son père, et de la même façon, on voit qu'un chassid, même s'il a une existence indépendante du rabbi, il demeure attaché au rabbi puisqu'il va recevoir toute sa vitalité du rabbi. Donc ça, c'est le point qui est vraiment essentiel, parce que il y a plusieurs enseignements qu'on peut retirer, parce que c'est un enseignement qui était très profond dans le Tanya. Donc on voit que l'Admorazaken nous explique que la goutte elle-même, elle va donner naissance à tous les membres du corps, et tous les membres du corps, ils proviennent de cette goutte séminale. Et quand on parle des membres du corps, on doit comprendre qu'il s'agit aussi des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que tous les enfants d'Israël, ils proviennent du cerveau du Père. C'est-à-dire, c'est qui le cerveau du Père? C'est le cerveau du peuple juif, Roch Béné Israël, c'est le Rabbi lui-même. Ça veut dire que tous les membres du corps de l'Assemblée d'Israël, ils demeurent liés à l'essence du Rabbi. Et ça, c'est quel que soit le niveau de chacun. C'est-à-dire qu'un juif, qu'il soit érudit ou qu'il ne le soit pas encore, il est attaché d'un lien essentiel au rabbi, au maître de notre génération. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'attacher au mot de l'Admorazaken quand il parle d'une unité merveilleuse. C'est-à-dire que le lien qui nous unit au rabbi, ça doit être un lien qui est merveilleux. Et ça s'accorde avec un des enseignements du Dvar Malchut du rabbi, puisque le rabbi nous explique que le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance. Et il nous dit que pendant ce mois-là, on doit vraiment accomplir un service divin qui est miraculeux. Donc ça fait référence à cette unité merveilleuse. Alors ce Shabbat-là, on va sortir trois livres de la Torah, trois Sefer Torah, et on va lire dans chacun d'eux. Et donc dans ces trois lectures de la Torah, il est question de la paracha de la semaine, c'est donc la paracha Tazria, donc comme on l'a dit, qui fait référence à la naissance, à la naissance du fils, à la naissance même, on peut dire, de tout le peuple d'Israël. Il est aussi question de Rosh Chodesh, et là-dessus, le rabbi rapporte la définition de Rosh Chodesh en nous disant que le mot Chodesh, il s'apparente au mot Chidush, donc à la nouveauté, puisque Rosh Chodesh, c'est l'apparition de la lune dans le ciel. Et donc, on sait tous les enseignements que le rabbi délivre à ce sujet, c'est l'apparition de la lune, ça fait référence au réveil de l'essence de l'âme, à la prière de Modé Ani. Quand la lune apparaît dans le ciel, c'est comparé par le rabbi au moment où un juif, il se réveille. Il se réveille et il prononce les mots de la prière Modé Ani et il remercie Dieu de lui avoir rendu une âme juive. Donc ça, la notion de chidouche, elle s'exprime tout à fait dans le contenu profond de cette paracha, c'est-à-dire par le fait qu'un juif, il doit s'efforcer vraiment de toujours trouver une nouveauté, un chidouche dans sa manière de servir Dieu et surtout d'accomplir vraiment sa volonté au point d'éveiller le désir de Dieu de dévoiler le Mashiach. Et ensuite, le sujet qu'on voit qui est traité ici dans cette paracha, donc il est directement lié à notre attachement au rabbi, parce que c'est précisément par notre attachement au rabbi qu'on peut dévoiler ce chidouche-là, qu'on peut agir au-delà de toutes nos limites, qu'on peut dépasser vraiment notre propre nature pour atteindre le niveau les plus élevés de nous-mêmes, la profondeur de la force de l'essence de l'âme et de la révéler dans les korot agluim, c'est-à-dire dans notre intellect, dans nos paroles et puis aussi dans nos actions. Cette idée-là, d'aller au-delà de toutes nos limites, ça s'exprime par le sujet aussi dans notre lecture de la Torah. On va parler du Korban Pessah. Donc Pessah, le mot Pessah, le rabbi nous rappelle que ça signifie un sceau. Et donc ce sceau-là, il fait référence au fait d'avoir une démarche, une attitude dans notre service divin qui est au-delà vraiment de faire un sceau, c'est-à-dire vraiment d'atteindre un niveau qui est supérieur au nôtre. Vraiment d'aller vraiment Michaël Lechaël, de prodige en prodige, jusqu'à vraiment atteindre ce qui nous dépasse totalement, c'est-à-dire aller au-delà de nos propres limites pour atteindre la partie de notre âme qui est enracinée dans l'essence divine et donc qui nous permet vraiment de dévoiler tout ce qui est une lumière divine qui est au-delà de nous-mêmes. Donc c'est la différence qui existe entre le nom Elohim et le nom Havayé. Elohim, ça fait référence au fait d'agir avec nos propres limites, en exploitant toutes les forces de notre âme, et le nom d'Havayé, il représente donc ce saut-là, d'atteindre justement cette lumière divine qui est au-delà du monde, de révéler une lumière qui est au-delà du monde, dans ce monde qui est limité. Ça, c'est le sujet vraiment, c'est les trois sujets de notre lecture de la Torah en ce jour de Rosh Chodesh, du Shabbat de la Parasha Tazria. Donc, les sujets qui sont dits dans ces trois lectures de la Torah, donc, elles nous amènent à comprendre et à réaliser ce que le Rabbi attend de nous-mêmes, c'est d'avoir un service de Dieu qui est vraiment miraculeux. Donc ça, on peut se demander de quelle façon on peut atteindre ce service divin qui est miraculeux. Alors on pourrait se rappeler d'une histoire de la Mora Zaken. On raconte qu'un jour, les Hassidim lui ont fait cadeau d'une petite boîte en argent pour priser le tabac. Et la Mora Zaken, au lieu de l'employer comme Kelly, comme un réceptacle pour y mettre du tabac, il a enlevé le chibour, c'est-à-dire le lien, l'aiguille, si on peut dire, l'axe qui attachait les deux parties de la boîte. Il les a séparées, donc, ces deux parties, et il s'est servi d'une des parties pour regarder, quand il met ses téphilines, il y avait un petit miroir, et puis il s'en servait comme miroir, donc. Donc il a détourné la fonction première de cet objet, et il l'a employé pour la kedusha, justement. Et quand on a raconté cette histoire-là au Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek a dit que l'attitude de son grand-père, c'était de ne rien briser. Même quelque chose de domaine, c'est-à-dire même un objet matériel, il ne le brisait pas. Encore moins tout ce qui est relatif à l'homme lui-même. Donc ça signifie quoi? Pourquoi le Rabbi Rayatz va nous raconter cette histoire? Il va nous expliquer, il va nous raconter cet événement-là pour illustrer un enseignement. Le Rabbi Rayatz nous pose la question, il nous demande comment se fait-il que le service divin d'un juif, vraiment, comment on doit servir Dieu? Alors on connaît bien l'expression « naaseh v'nishma », c'est-à-dire qu'on doit faire d'abord avant de comprendre. C'est-à-dire que tout notre service divin doit être axé sur notre soumission vis-à-vis de Dieu. Donc ça passe avant même la compréhension. Donc même, on voit donc que cette capacité, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du joug divin, elle précède même l'intellect. C'est-à-dire qu'un juif, il doit agir d'abord parce que c'est la volonté de Dieu. Chaque mitzvah qu'il accomplit, il accomplit parce que Dieu l'a ordonné, et non pas parce qu'il conçoit la chose, parce qu'il la comprend au moyen de son intellect. Alors dans ce cas, pourquoi Chabad s'appelle Chabad? Pourquoi l'accent vraiment du chassidisme Chabad? Pourquoi le nom même de Chabad, il est employé? Puisque Chabad, ça fait référence à Chochma Bina Da'at, qui sont les forces de l'intellect. Si tu me dis que vraiment ce qui est le plus important, c'est la Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est le bitoul, d'agir vraiment en étant totalement soumis à Dieu, pour quelle raison on met aussi l'accent sur les forces de l'intellect? Alors le Rav Yoel Kahn explique, à partir des enseignements du Rabbi, il explique que, comme on voit ici dans l'histoire que le Rabbi Rayat s'y rapporte au sujet de la Mora Zaken, que la Mora Zaken ne brisait rien, c'est-à-dire qu'il se servait de tout pour servir Dieu, c'est-à-dire qu'il ne brisait rien, il ne cassait rien, de la même façon, toutes les forces de l'âme ne doivent pas être brisées, c'est-à-dire qu'elles doivent être employées dans le but de servir Dieu. Et même l'intellect, même les forces de Chabad, doivent être employées au maximum, c'est-à-dire vraiment on doit utiliser ces forces-là, mais on doit les utiliser vraiment pour vraiment tout ce que Dieu nous donne, toutes les facultés, toutes les capacités qu'il nous donne, on doit les exploiter, mais on doit mêler à cela Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais oublier de se soumettre totalement à Dieu avant toute chose. Donc ça fait référence vraiment à la lumière du nom d'Avayé, alors que la lumière du nom d'Elohim, c'est le fait d'employer nos forces naturelles. Donc révéler le nom d'Avayé dans le nom d'Elohim, c'est révéler toujours cette soumission vis-à-vis de Dieu, tout en agissant avec les forces de notre intellect, tout en préservant les forces de notre intellect, les forces que Dieu nous a données. Donc ça s'exprime aussi dans la déclaration de la Mora Zaken, quand il dit que celui qui travaille pendant la semaine, il mange le jour du Shabbat, c'est-à-dire que celui qui travaille pendant la semaine, ça correspond vraiment à notre action dans le monde, dans ce monde matériel, c'est le fait d'employer les forces de notre intellect vraiment pour comprendre, pour étudier la Torah, mais quand on le fait de manière vraiment profonde, alors on mange le jour du Shabbat, c'est-à-dire qu'on reçoit justement cette soumission, ce bitoul vis-à-vis de Dieu, cette lumière d'Avayé, on la reçoit le jour du Shabbat en cadeau. C'est-à-dire on révèle vraiment, on unit les deux. On unit la lumière d'Avayé avec la lumière d'Elohim. Et donc on comprend que justement notre service divin, il n'exclut pas le bitoul, notre soumission vis-à-vis de Dieu, n'exclut pas qu'on doit employer toutes les forces naturelles que l'on possède. On peut dire donc ici que l'unité merveilleuse dont il est question, vraiment dans le Tanya, quand l'Admor HaZaken il parle de cette unité merveilleuse qui unit le Fils à son Père, qui unit l'Assemblée d'Israël au Saint béni soit-il, qui unit le Chassid au Rabbi, cette unité merveilleuse, vraiment, elle s'exprime dans notre service divin qui doit être miraculeux. Alors quel est le vrai miracle? Ça correspond à quoi ce vrai miracle? Ça correspond justement à révéler le nom d'Avayé dans le nom d'Elohim. Ça correspond au fait de révéler la force de l'essence de l'âme dans les forces de l'âme elle-même. Donc on peut se rappeler de l'histoire de l'Admor HaZaken quand il se trouvait en prison à Pétersbourg et que le tsar lui-même avait désiré le rencontrer, mais il avait désiré le rencontrer en se cachant dans les habits d'un mendiant pour pas que l'Admor HaZaken ne le reconnaisse. Il était curieux de connaître l'Admor HaZaken, mais il voulait apparaître à l'Admor HaZaken sous les traits d'un mendiant, pour provoquer justement une situation plus naturelle, pour se rendre compte avec plus de vérité à ses yeux ce que représentait l'Admor HaZaken. Donc il s'est déguisé dans les habits d'un mendiant, il est rentré dans la cellule où se trouvait l'Admor HaZaken, et contre toute attente, l'Admor HaZaken il s'est levé immédiatement quand ce mendiant, entre guillemets, est rentré près de, et se tenait devant lui, et il a été très étonné. Le tsar lui a dit: pourquoi tu te lèves devant moi? Et l'Admor HaZaken a prononcé la bénédiction que l'on dit quand on se trouve en présence d'un roi, et il lui a dit: quand on se trouve en présence d'un roi, la Torah nous ordonne de nous lever et de dire une bénédiction, parce que un roi il possède un peu de la malchut divine, un peu de la royauté divine. Donc on peut dire ici, à travers cette histoire-là, que c'est ça le véritable miracle. C'est justement la vision de l'Admor HaZaken, la vision de tous les Rebbeim, de tous les Admorim, de Chabad, c'est cette capacité qu'ils ont de déceler le nom d'Avayé qui est caché par le nom d'Elohim. De déceler le tsar, même s'il est déguisé, même s'il se cache dans les habits d'un mendiant. Donc ça, c'est vraiment le véritable miracle. C'est de parvenir à cette vision. Donc on a vu ici, dans cette étude du Devar Malchut, que le fils, vraiment, la naissance, il est question de la naissance, justement, c'est la naissance et l'éveil de l'essence de l'âme qui se révèle en nous-mêmes, parce qu'à partir du moment où elle se révèle en nous-mêmes, alors on est capable de deviner le nom d'Avayé qui se cache dans le nom d'Elohim. Et de quelle manière on parvient à avoir cette vision? C'est justement par cette unité merveilleuse qui nous unit au Rabbi. C'est par le fait d'être unis au Rabbi, et ça, même si on voit que la goutte, elle descend, elle provient du cerveau du Père, et elle descend ensuite pour s'habiller, pour devenir matériel, devenir vraiment quelque chose de matériel, au point que tous les membres du corps qui ont été formés à cette goutte, ils demeurent attachés au cerveau du Père, et on a expliqué que ça veut dire que tous les Juifs, tous les enfants d'Israël, ils demeurent attachés au cerveau du Père, c'est-à-dire au cerveau même du Rabbi, et ils reçoivent leur vitalité de Roche Béné Israël du Rabbi, même s'ils se trouvent en exil, comme on le verra dans la paracha suivante, quand on parle du lépreux, du Metsora. Metsora, c'est le lépreux qui se trouve en dehors du camp, c'est celui qui est vraiment, qui n'est pas inclus dans le camp, et donc l'allusion est claire, ça représente notre exil, le fait de se retrouver à l'extérieur du camp, c'est-à-dire dans un monde obscur. Malgré tout, on doit savoir, d'après cet enseignement du Rabbi, qu'on demeure attaché à l'essence du Rabbi. Donc tous nos efforts et tout notre travail doit être sous le signe de cet attachement pour parvenir vraiment à révéler cette unité merveilleuse afin que l'essence divine, l'essence du Rabbi, se révèle dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, et que par ce mérite-là, nos actions, vraiment, elles reflètent le désir le plus profond qui existe dans le cœur de chaque juif, le dévoilement du Mashiach avec les deux dieux dès à présent. Rosh Chodesh Tov Umevorach, Shabbat Shalom Umevorach.